14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Les policiers de la PJ de Tours ont touché le fond de l'horreur en élucidant le mystère de la femme dépecée, découverte à Chambray il y a 8 jours. Comble de l'horrible, Sylvie dépecera sa victime le lendemain et dispersera les restes macabres sur des parkings voisins, sauf la tête.
Bonjour, un cas unique dans les annales criminelles. Les spécialistes n'ont jamais réussi à trouver un cas semblable, une femme qui assassine sa meilleure amie et la dépece toute seule, guidée par une rage incommensurable. C'est le geste extrême commis en 1988 par Sylvie Reviriego, une femme que l'on va aussitôt surnommer la dépeceuse de Tours. Un cas criminel sans équivalent, mais également un cas clinique sur lequel vont se pencher les psychiatres. Sylvie Reviriego n'avait-elle pas toute sa raison quand elle est passée à l'acte? La réponse sera non. Cette mère de famille était lucide et savait ce qu'elle faisait. Une autre piste pour expliquer à tout prix ce geste fou va alors se dessiner, celle d'un cocktail médicamenteux dévastateur, un traitement pour maigrir qui l'aurait placée dans un état de transe incontrôlable, au point de ne voir plus d'autre issue que celle du meurtre. La réponse sur ce point, on va le voir, sera un peu plus hésitante. Pourquoi Sylvie a-t-elle décidé un matin de tuer Françoise et d'éteindre à jamais son regard? Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Sylvie Reviriego en ce mois de décembre 88. Le nom de cette aide-soignante va apparaître derrière la découverte d'un puzzle macabre dans l'agglomération de Tours. Un corps fraîchement dépecé ne manque que la tête. Ce mardi 13 décembre 1988, peu après 11h, deux sacs poubelles attirent l'attention d'une équipe d'agents d'entretien sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours. Les deux gros sacs fermés ont été curieusement abandonnés à la vue de tous sur une bande gazonnée qui sépare les places des automobiles. Leur ouverture fait sursauter les témoins. À l'intérieur, des morceaux de corps sanguinolents et entremêlés. La police est prévenue. Le décompte macabre fait apparaître deux bras, deux moitiés de jambes et un buste nu dont on distingue les seins. Il s'agit d'une femme. Le reste du corps est absent. L'idée d'une blague de carabin, l'école de médecine et la morgue de l'hôpital sont toutes proches. Cette idée surgit dans tous les esprits, mais elle est vite écartée. Le commissaire Claude Perverie, patron de la PJ de Tours, penche sans hésiter pour un crime. Des témoins sont interrogés, mais personne n'a vu quiconque déposer les sacs. Mercredi 14 décembre, vers 18h, un troisième sac est découvert dans une zone commerciale de Tours, à l'arrière du grand magasin discount, l'usine aux vêtements. Un chien, attiré par l'odeur, l'a déchiré. À l'intérieur, une partie du buste. La même victime, la tête, est manquante. Les légistes indique qu'avant avoir été découpée avec un couteau de boucher, la femme a eu les veines des poignets profondément sectionnées à l'aide d'une lame fine, coupante comme un rasoir. L'autopsie indique que l'inconnue a absorbé une dose non négligeable de neuroleptiques ainsi que d'autres médicaments. La découpe a été faite post-mortem. Impossible d'identifier la victime, retrouvée nue et qui ne portait ni bijoux ni tatouages. Ses empreintes sont inconnues dans les fichiers de police. Un appel à témoins est lancé dans le journal local La Nouvelle République. Il fait état de quelques éléments distinctifs, une scoliose prononcée, une trace de vaccin BCG sur l'omoplate gauche ou encore des taches blanches sur le thorax, mais personne ne se manifeste. 17 décembre, 4 jours après la découverte des premiers sacs, une femme appelle le commissariat. Le témoin veut rester anonyme. Elle indique que la victime est Françoise Gendron, domiciliée rue de la Vallée Violette, dans la banlieue de Tours. Information vérifiée. L'appartement à l'étage d'une résidence tranquille est vide. Le chat de la maison n'a pas été nourri depuis quelques jours. Un léger désordre dans la cuisine, mais pas de traces de violence ou de lutte. Un relevé d'empreintes révèle que Françoise Gendron, 38 ans, sans emploi, mère d'un fils qui n'habite pas chez elle, eh bien la dépecée. Yves, un homme qui l'a fréquenté depuis peu, indique qu'il était chez elle au soir du lundi 12 décembre. Il l'attendait, mais elle n'est jamais venue. Une femme a alors appelé pour lui dire qu'elle était partie en Vendée chez des amis. Le petit ami est rapidement mis hors de cause. Un autre témoin, Christian, venu déposer un rouleau de papier peint chez Françoise, l'a vu, lui, au matin du lundi 12 décembre. Elle sortait de son bain. Elle lui a dit qu'elle avait failli s'électrocuter avec un sèche-cheveux. Il se souvient que c'est une autre femme qui lui a ouvert la porte. Celle-là, Il ne l'avait jamais vue, la quarantaine, cheveux blonds, elle n'a pas dit un mot. Et cette femme qui apparaît dans l'entrebâillement de cette porte, dans l'entrebâillement de cette porte, c'est bien sûr Sylvie Reviriego qui va très vite occuper l'esprit des enquêteurs. Pour l'instant, on en reste sur cette scène de crime et on a en ligne dans l'heure du crime notre première invitée, c'est maître Catherine Lison-Crosse. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Sylvie Reviriego. À son procès, vous la connaissez très bien. On va en parler évidemment de Sylvie Reviriego. Vous êtes également l'auteur de Cherche justice désespérément, démence et culpabilité aux éditions de Noël. C'est un livre qui était paru en 1993. Je voudrais que vous nous parliez tout de suite, maître Lison-Crosse, de cette scène de crime particulièrement épouvantable, parce que là, ça défie presque l'imagination. Un corps découpé en de multiples morceaux et qu'on ne cache presque pas.
Tout à fait. L'horreur du crime semble l'avoir emporté sur tout raisonnement à l'époque. Mmh. Ce que vous avez indiqué, là, l'histoire du sèche-cheveux lancé, donc on le sait à présent, par Sylvie Reviriego à la victime, ça faisait partie des scénarios qu'elle avait élaborés et dont elle avait fait part à des proches avant même de passer à l'acte le lundi 12 décembre. Donc, pour la cour d'assises, pour le juge d'instruction tout d'abord, pour le parquet, pour la partie civile, c'est-à-dire le fils de Françoise, c'était de la préméditation. Fait d'avoir lancé le séchoir, etc., d'en avoir parlé avant. Mais non, nous disent des experts qui se sont prononcés 8 ans après le procès, après avoir repris pièce par pièce, ils ont dit que le fait d'en avoir parlé préalablement, d'avoir évoqué des scénarios de la disparition de Françoise sans aucun mobile et de la manière dont ça s'est passé, excluait la préméditation.
Alors on comprend bien et ça va être la question centrale de ce dossier. Le discernement, effectivement, ça va être une question récurrente dans cette affaire. Mais on a le temps d'en parler. On va y venir, notamment avec ce procès. Je voudrais encore un mot, maître. Cette histoire de découpe des corps, évidemment, elle est sinistre, elle est morbide, elle est épouvantable, mais elle est très bien faite. Il y a une méthode, une méthodologie implacable presque, on a l'impression.
Écoutez, il y a eu plusieurs morceaux, comme vous avez rappelé dans tout à l'heure, mais il n'y a aucune logique intrinsèque, si vous voulez. Le fait de découper, elle ne se souvenait plus du tout de ce qu'elle avait fait. Quand j'ai rencontré, moi, la maison d'arrêt d'Orléans, en décembre 1988, elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait là. Donc, elle n'a pas eu la mémoire de ce qu'elle avait fait.
Elle n'a pas eu la mémoire, effectivement. Là aussi, on va y revenir sur cette mémoire défaillante, cette mémoire qui, d'un seul coup, s'envole et elle ne peut pas dire pourquoi elle a fait ça. Notre deuxième invité, c'est maître Jean-Michel Sieklucki. Bonjour, maître. Merci beaucoup d'être en ligne, vous aussi, dans l'heure du crime. Vous êtes ancien bâtonnier de Tours et vous êtes dans cette affaire l'avocat de Cyril Gendron. Cyril, c'est le fils de Françoise Gendron qui, à ce moment de l'enquête, très vite, a été identifié. Dites-nous en quelques mots, maître, qui est Françoise Gendron ?
Oh, c'est une femme particulièrement ordinaire qui a été divorcée, qui vit dans des conditions tout à fait banales, qui travaille, qui a un seul fils, effectivement, Cyril, qui, lui, ne connaît pas son père, n'a pas de contact avec son père, et n'a pas de grands-parents, n'a pas de frères et sœurs. Il est seul avec sa mère, c'est sa seule famille.
J'ai lu dans le dossier, qui est imposant, ce dossier de procédure, que François Gendron sortait beaucoup, c'était une noctambule.
Oui, notamment avec Sylvie Reviriego, elles avaient c'était des femmes libres qui sortaient, qui avaient des amis hommes, et qui sortaient en soirée, oui, tout à fait.
Alors l'enquête, maître, elle va aller très vite, parce qu'il y a ce coup de fil anonyme qui met les policiers tout de suite sur la piste, notamment de François Gendron.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, les suspicions vont se concrétiser rapidement. Si j'ai bonne mémoire, hein, j'ai pas revu le dossier, ça fait très longtemps, mais on va trouver quand même une dent dans les toilettes chez Madame Reviriego. Enfin, il y a des... Chez Françoise Gendron, il y a des qu'on va identifier comme appartenant à Françoise Gendron, donc il y a des pistes, et puis il y a surtout très rapidement des aveux complets et détaillés qui vont être passés.
On va y venir évidemment, maître, dans le chapitre suivant sur ces aveux et cette découverte.
Oui.
Encore un mot, maître Catherine Lison-Croze, juste un mot, parce que je l'ai souligné au début, mais on a l'impression que ce n'est pas un crime caché. C'est-à-dire que les sacs, par exemple, ils sont faciles à trouver, elle aurait pu s'en débarrasser autrement, etc. On a l'impression que tout ça, il y a une signature naturelle.
Ce n'est pas un crime caché. Et comme je vous le disais il y a un instant, encore moins caché du fait qu'elle a révélé, avant de passer à l'acte, avant de tuer Françoise Gendron, Sylvie a raconté à des proches ce qu'elle allait faire.
C'est ça, donc...
Et on y viendra tout à l'heure avec les experts qui se sont repenchés sur le dossier 8 ans après sa condamnation à perpétuité. Le fait même de dire dans un délire ce qu'elle allait faire exclut une préméditation. Une préméditation qui a été retenue pour la condamner à perpétuité.
De fil en aiguille, les policiers vont porter donc leur attention sur Sylvie Reviriego. Celle-ci va fournir un scénario qui la dédouane, puis va finalement se raviser et raconter un assassinat qui dépasse l'entendement. Heure du crime, consacrée aujourd'hui à l'affaire Sylvie Reviriego à Tours en décembre 1988. 8 jours après la découverte d'un corps dépecé dans des sacs poubelles, cette aide-soignante est interpellée par la police. Ce 21 décembre 1988, à 9h30, une équipe d'inspecteurs de la PJ de Tours se présente au domicile de Sylvie Reviriego. Un appartement dans une résidence moderne et propre. Cette aide-soignante de 37 ans, qui travaille à l'hôpital, dans le service chirurgie thoracique, est en arrêt maladie depuis quelque temps. Elle souffre de vives douleurs au dos. Sylvie Reviriego est divorcée. Elle vit ici avec ses enfants, une fille de 16 ans, un fils de 14 ans. Un appel anonyme a évoqué son nom et celui de 2 hommes, Michel et Luc, dans la mort atroce de Françoise Gendron. Sylvie Reviriego ne semble pas surprise par cette visite. Elle accepte la perquisition. 2 couronnes en or sont retrouvées dans la salle de bain. Elle dit ignorer d'où elles proviennent. Derrière la trappe de la baignoire, des bijoux dans un coffret et des taches brunâtres, un peu de sang. L'aide-soignante est placée en garde à vue. Elle ne résiste pas aux policiers. Dans un premier temps, elle accuse les fameux Michel et Luc d'avoir découpé son amie Françoise. Mais ce scénario s'effondre avec l'audition des 2 hommes. Dans la soirée, pendant plus de 3 heures, elle va alors raconter avec un luxe inouï de détails la véritable histoire. Lundi 12 décembre, Sylvie Reviriego explique qu'elle s'est rendue chez Françoise Gendron avec la volonté parfaitement claire de la tuer. « Il fallait que Françoise disparaisse », répète-t-elle à plusieurs reprises. Elle l'a trouvée en train de prendre son bain. Elle a eu l'idée de laisser discrètement tomber dans la baignoire le sèche-cheveux au fil dénudé, mais Françoise a juste pris une bonne décharge. Sylvie a ensuite entraîné Françoise chez elle sous prétexte de lui faire essayer un nouveau bustier. Sur place, elle lui a servi un thé bourré de Lexomil, un tranquillisant. Françoise a commencé à somnoler, elle l'a aidé à s'allonger. Quand les enfants sont rentrés de l'école à midi, elle leur a dit que Françoise avait un peu trop bu. Elle leur a servi le repas. Après leur départ, Sylvie a resservi un thé au Lexomil, a placé Françoise chancelante dans la baignoire. Elle lui a ouvert les veines avec un scalpel, a essayé de la découper sans succès. Elle a enroulé le corps dans une couverture et l'a placé sur le balcon. Le soir, elle a fêté comme si de rien n'était l'anniversaire de son fils avec une 10aine d'invités. Mardi 13 décembre, 7h30, dans sa blouse de soignante, elle a commencé sur son balcon à découper le corps avec un couteau de chasse. Elle a mis les morceaux dans des sacs poubelles. Elle a demandé à son fils, qui ignorait tout de leur contenu, de les déposer jusque dans le coffre de sa Renault 4. Elle est partie les jeter. Dans les 2 jours suivants, elle s'est occupée de la tête placée dans un seau. Une tête qu'elle ne voulait pas regarder. Elle l'a brisée à coups de marteau, l'a ensuite carbonisée dans dans le four. 3 jours plus tard, elle a balancé ses derniers restes dans la Vienne, sous le pont de chemin de fer en direction de Chinon. Son fils, qu'elle conduisait alors chez son père, était présent. Elle lui a dit qu'elle jetait des détritus. Le 21 décembre, Sylvie Reviriego est mise en examen pour meurtre avec préméditation. « Je n'en pouvais plus des jérémiades de Françoise », a-t-elle répété sans cesse aux enquêteurs. Maître Catherine Lison-Croze, avocate de Sylvie Reviriego, dites-nous, maître, qui est Sylvie Reviriego? D'où vient-elle? Qui est cette femme divorcée?
Alors, elle était divorcée depuis 6 mois, quand elle est arrivée à Tours, de Chinon à Tours. Mmh. Et c'était une femme battue, il faut dire ce qui est. Son mari était violent, buvait. Et quand elle est arrivée à Tours, elle avait un complexe énorme, elle se trouvait trop grosse. Mmh. Et sur les conseils d'amis, elle est allée voir un médecin qui avait la réputation de faire perdre beaucoup de kilos en peu de temps. Et il lui a prescrit ce que vous avez appelé tout à l'heure comme un cocktail de médicaments, mais c'est des médicaments très dangereux. Mmh. D'autant plus dangereux qu'il n'y a eu aucun examen clinique de Sylvie Reviriego, aucune prise de sang par ce médecin. Ces médicaments sont des amphétamines, des benzodiazépines, il y avait un diurétique aussi, et surtout des extraits de thyroïde frais. Mmh. Voilà. Et ces médicaments, on a retrouvé les ordonnances après. Ils s'étaient interdits par la loi Talon d'être dans une même préparation. Seulement, ils étaient prescrits dans la même ordonnance et dans l'estomac de Sylvie Reviriego, ben le mélange se faisait. Et ce sont ces médicaments qui ont induit chez elle une absence de discernement.
Alors oui,
une agressivité que personne ne lui connaissait. Ses proches, on n'en fait pas. Tous ses proches, on n'en fait pas. Comme ça qu'elle a giflé violemment sa fille, oui. à la stupéfaction de tout le monde. Elle était d'une agressivité incroyable.
Alors ça, vous allez, cher maître, le développer évidemment tout au long de cette enquête et puis du procès évidemment qui va se dessiner. Je voudrais tout de même que l'on revienne un petit peu sur ce qui marque au début dans ce témoignage qu'elle donne en garde à vue. D'abord, c'est extrêmement précis et puis il y a ces gestes terribles qui sont accomplis et notamment cet acharnement qui va beaucoup marquer les psychiatres sur la tête, comme si elle voulait faire disparaître finalement sa meilleure amie.
J'ai toujours en tête les observations du commissaire Tervery disant qu'il n'y avait même pas besoin de l'interroger et que la greffière du policier tapait automatiquement ce qu'elle disait parce que c'était une logorée, si vous voulez. C'est le mot qu'il a employé. Sylvie Reviriego, pendant 2-3 heures, a raconté par le menu tout ça, tout ce qui lui passait, tout ce qu'elle avait fait. Voilà. Donc il n'y a eu aucune obstruction de sa part, si vous voulez, parce qu'à cette époque-là, au moment de la garde à vue, elle était encore sous l'emprise de ces médicaments-là, qui sont des modificateurs du psychisme. Ce sont des médicaments psychotropes sur lesquels la justice, à l'époque, n'a pas voulu se pencher.
Effectivement, et cette question, elle va revenir en permanence, cette question des médicaments, qui est importante d'ailleurs. Maître Jean-Michel Sieklucki, qu'est-ce que vous pensez lorsque vous prenez connaissance de ces procès-verbaux de garde à vue qui sont effarants? Rarement on a vu un criminel donner autant de détails sur ses moindres gestes.
Je ne suis pas persuadé, contrairement à ce que dit mon confrère, que ça a été si facile que ça d'obtenir des aveux. Je connaissais bien le policier qui l'a entendu initialement. C'était pas le commissaire Tervery, c'était François Barbier. Mmh. Je peux vous dire que ça a pris quelque temps avant de tirer sur la ficelle et d'obtenir les détails qu'elle a donnés, qu'elle a ensuite confirmés tranquillement quelques jours plus tard au juge d'instruction. Donc, si vous voulez, on est en train là, de refaire un procès. J'apprends qu'il y aurait eu des expertises. Moi, j'ai vécu un procès contradictoire à l'époque, avec expertises contradictoires. J'ai pas vécu ce procès 8 ans après, oui. Et qui n'a pas existé, avec des experts sortis de je ne sais où, invérifiables, et qui racontent des choses qui sont totalement incontrôlables.
Maître Sekyuki, on va y revenir. On va y venir au procès dans cette heure du crime. Oui. Juste un point sur les aveux qu'elle fournit, même s'ils sont d'après vous des aveux peut-être un peu tardifs ou en tout cas qu'elle a temporisé, mais il y a ces détails effarants. Quand vous prenez connaissance, vous êtes ancien bâtonnier de Tours, vous êtes un avocat expérimenté, je suppose que vous êtes quand même choqué, surpris.
Par les détails du crime, ah non, pas du tout. Non, j'ai entendu souvent dans les dossiers des accusés passer des aveux complets, détaillés, donner même des détails qu'on n'aurait pas pu trouver tout seul au niveau de l'enquête et qu'il les desservait. Donc non, c'est une démarche qui n'est pas inhabituelle.
Elle a tout de même tout préparé et organisé.
Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas la moindre hésitation sur la préméditation, il n'y a pas la moindre hésitation sur la lucidité au moment de la réalisation d'un crime qui va se perpétrer pendant 4 ou 5 jours, si vous voulez, dans des conditions invraisemblables. Il n'y a pas d'hésitation sur sa lucidité quand elle essaye d'égarer les policiers avec beaucoup de conscience sur d'autres pistes. Non, il n'y a aucun espèce de doute. N'allez pas imaginer qu'il y ait une erreur judiciaire, surtout.
Alors moi, je n'imagine rien du tout, mais j'ai la partie facile, je suis de l'autre côté du micro. C'est à vous d'imaginer et de nous donner des pistes. Encore un tout petit mot, maître Catherine Lison-Cros, parce qu'on arrive presque au moment des actualités. Après ces gestes fous, cette tuerie, on a l'impression qu'elle peut reprendre le cours de sa vie presque normalement. C'est vrai ou c'est faux ?
Non, absolument pas. Et je ne peux pas laisser mon confrère dire que les médicaments et les conclusions d'experts 8 ans après relèvent de l'imagination.
Eh bien, cher maître,
j'ai porté plainte contre le médecin.
Et on va en parler, maître, on va en parler. Je suis obligé de reprendre la parole parce qu'on arrive au moment presque de l'actualité. Ce que je voulais dire, c'est qu'en dépit de l'avis des experts qui ne détectent aucune anomalie mentale, la question de la clairvoyance de Sylvie Reviriego au moment des faits reste posée. Il va alors apparaître que celle-ci suivait un traitement médicamenteux à haut risque.
On a considéré ma fille comme un monstre. Ma fille n'est pas un monstre. On a fait son parcours avant. Elle n'a jamais été méchante. Alors, donc, il y a une raison qui l'a fait basculer, voyez-vous. Je n'ai de veine pour personne. Je pense que la justice est passée à côté de la vérité.
Au programme de l'heure du crime, le dossier Sylvie Reviriego. En décembre 88, cette mère de famille de 37 ans a tué et dépecé sa meilleure amie Françoise Gendron. Les psychiatres s'interrogent sur ce cas criminel unique, tout comme les toxicologues qui se penchent sur la piste des médicaments. Écrouée à la prison pour femmes d'Orléans, Sylvie Reviriego est décrite par les psys comme une femme déterminée qui résonne parfaitement. Elle aurait éprouvé de la jalousie par rapport au bonheur des autres et ceux qui auraient mieux réussi qu'elle, rapporte un psychothérapeute. Son avocate, maître Catherine Lison-Cros, se tourne, elle, du côté de la toxicologie. Elle note que Sylvie Reviriego avalait quotidiennement un cocktail de médicaments destinés à la faire maigrir, diurétique, extrait thyroïdien, amphétamine et coupe-faim. Une potion magique déjà interdite à l'époque, mais prescrite en bonne et due forme par un généraliste de Blois, bien connu pour ses traitements amaigrissants. À l'issue de cette affaire, il sera suspendu d'exercice pendant 3 mois par le Conseil de l'Ordre des médecins. La défense de la dépeceuse pense que ce mélange a pu agir sur son comportement au point de lui faire perdre toute clarté. Les rapports des toxicologues admettent que ces médicaments constituent une redoutable association, mais seulement si le sujet est déjà en proie à une certaine démence. Et ce n'est pas le cas pour l'aide-soignante. Claude Reviriego, la mère de Sylvie, raconte que ces derniers temps, elle avait changé. Elle avait beaucoup maigri, passant de la taille 42 à un 36. Elle serait devenue agressive vis-à-vis de sa famille. « Je ne reconnaissais pas ma fille », dira-t-elle. Après quelques mois de détention et après avoir raconté à plusieurs reprises son crime, Sylvie Reviriego va se dire incapable d'en dire plus. Elle assure d'être amnésique et ne plus se souvenir du jour où elle a tué Françoise. Maître Jean-Michel Sekyuki, ancien bâtonnier de Tours, avocat de Cyril Gendron, qui est le fils de la victime, le fils de Françoise Gendron, et l'un de nos invités dans l'heure du crime, vous, Maître, vous ne croyez pas à cette piste médicamenteuse ?
Non, pas une seconde, j'y croyais pas. À l'époque, déjà, vous savez, je vais vous dire une chose, Sylvie Revirier-Faux ment quand elle dit ne plus se souvenir, alors que je sais par ailleurs qu'elle raconte à ses co-détenus les scènes qu'elle a vécues. Donc non, on est dans le mensonge utilitaire, et on est... Si vous voulez, on a soumis dans ce procès, moi je n'ai connu qu'un procès, hein, je n'ai pas connu les choses qui se sont passées après d'une manière unilatérale et dissimulée, je n'ai connu qu'un procès qui a été fait contradictoirement avec des experts tous azimuts, des toxicologues, des psychologues, des psychiatres, qui sont tous arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas envisager, même si ce cocktail était nocif, qu'on ne pouvait pas envisager une perte de conscience, une perte de contrôle qui s'étalerait sur 5 jours. C'est totalement inimaginable. Alors à partir de là, ben on fait un choix de défense.
Maître Catherine Lison-Crosse, vous êtes l'avocate de Sylvie Reviriego à cette époque. On trouve que Sylvie a changé au fil des mois, c'est ce que dit sa mère.
Oui, tout à fait. Elle est devenue très très agressive et violente. Elle a perdu 19 kilos. Elle est méconnaissable. Et même son ex-mari le dit. Alors, j'ai porté plainte contre le médecin prescripteur. Et la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Orléans a ordonné une expertise. Mmh. Et ce sont donc deux médecins experts qui, dans les années 90, qui ont suivi le procès, ont examiné Sylvie Reviriego. Ils ne se sont pas contentés de ça, d'ailleurs. Ils ont repris tout son pédigré médical depuis sa naissance jusqu'à leur rencontre avec Sylvie Reviriego, le maison d'arrêt. Il conclut sans l'ombre d'une hésitation au fait qu'elle souffrait d'une hyperthyroïdie.
On va vous reprendre au téléphone. Maître Lison-Crosse, je vous interromps, on va vous reprendre au téléphone parce que la ligne est vraiment très mauvaise. Maître Jean-Michel Sieklucki, un expert psy va dire que c'est une hystéro-perverse, Sylvie Reviriego. Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire qui ne débouche en tout cas sur une anomalie mentale, hein, et sur une irresponsabilité. C'est un trait de caractère, de l'hystérie, on en a tous un peu. De la perversité, on en a tous un peu, à des doses acceptables. Donc là, on est dans le psychologique, on n'est pas du tout dans le psychiatrique.
Mais tout de même, ce que dit votre consoeur, Catherine Lison-Crosse, c'est cette femme qui a beaucoup maigri, qui est en proie, peut-être en proie à des angoisses, avec ce traitement.
Attendez, moi je l'ai vue, je ne la connaissais pas avant les faits, je l'ai vue au procès, on me dit qu'elle a perdu 19 kilos et que son caractère est épouvantable. Elle était une femme tout à fait normale, ou alors avant elle était complètement obèse avec 20 kilos de plus. Donc tout ça c'est pas vrai, tout ça c'est des mensonges, le témoignage de sa mère est parfaitement inexact. Il n'y a aucun élément qui permette de penser qu'elle soit devenue agressive avec qui que ce soit. C'est inexact.
Sylvie Reviriego est considérée comme responsable de ses actes et apte à comparaître lors d'un procès. L'occasion peut-être de savoir qui se cache vraiment derrière cette silhouette. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le dossier Sylvie Reviriego, cette aide-soignante, mère de 2 enfants, est accusée d'avoir dépecé Françoise, sa meilleure amie. Été 1991, 3 ans après les faits, elle s'apprête à être jugée. Ce 24 juin 1991, Sylvie Reviriego, toute de noir vêtue, serre-tête de velours noir, dans de longs cheveux blonds, comparée devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Procès annoncé comme spectaculaire, la salle est comble pour essayer d'apercevoir la dépeceuse et de capter son regard. Elle va pourtant garder les yeux baissés pendant tout le procès, même le fils de la victime ne parviendra pas à la regarder en face. Sylvie Reviriego ne va pas raconter une nouvelle fois la terrifiante semaine du 12 décembre. Sa mémoire ne lui revient pas, elle est incapable de s'exprimer. Lors de l'enquête, elle avait dit ne plus avoir supporté les rires vulgaires de Françoise Gendron, son aisance débridée avec les hommes. Elle l'avait qualifiée de sangsue, d'une femme qui la tenait sous sa coupe. Il faut s'en tenir là. Au deuxième jour d'audience, elle répond pour la première fois en disant qu'elle n'en voulait pas à Françoise au point de faire une chose pareille. La défense de Sylvie Reviriego va tenter de plaider l'altération du jugement de sa cliente lors de ses actes. Elle n'aurait pas été consciente de ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait, notamment à cause de l'absorption de médicaments. Au nom de l'article 64, alors en vigueur, Elle ne peut pas être jugée mais doit être internée en psychiatrie. L'accusation balaie ses arguments évoquant un dépeçage offensif, né tout simplement de la haine. L'acharnement sur la tête de la victime est le signe qu'elle voulait gommer à tout prix cette existence. Le 27 juin, peu après 20h, Sylvie Reviriego est condamnée à la perpétuité. Alors Sylvie Reviriego, eh bien, elle n'est pas folle, selon les experts, et puis ce ne sont pas les médicaments qui ont pu provoquer ce tel acte barbare. Maître Catherine Lison-Croze, c'est la peine la plus lourde qui pouvait être prononcée, la perpétuité.
Oui, tout à fait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand le dossier est arrivé devant la cour d'assises, c'est comme si les dés étaient jetés. L'instruction a été faite à charge, uniquement à charge, et je dois vous dire que dès la reconstitution, j'ai compris la tonalité que le juge entendait donner au dossier, puisqu'il a dit à Sylvie, à qui il posait des questions et qui ne répondait pas, il lui a dit, vous savez madame, ce qu'on faisait aux gens comme vous avant 1981, et il a eu un geste de la main tranché en tranchant sa gorge. Voilà. Alors donc vous... je veux dire que tout a été dans ce sens. À chaque fois que nous demandions une contre-expertise, c'était non. Lorsque j'ai demandé que le professeur Ollier, chef du clinique à l'hôpital Sainte-Anne, en psychiatrie, vienne à la barre de la cour d'assises pour dire ce qu'il avait, lui, ce qu'il pensait, lui, du cas Sylvie Reviriego, le parquet a refusé qu'il vienne à Tours pour la voir, parce que c'était le parquet qui devait délivrer un permis de communiquer avec la détenue. Donc on a tout fait, il n'y a pas eu d'expertise, de contre-expertise toxicologique, il n'y a pas eu... Tout a été refusé, tout allait dans le même sens. Il y a eu, c'est vrai, des psychiatres qui ont dit « oui, c'est un petit cocktail, bon, qui a entraîné un nervosisme ». Non, plus qu'un nervosisme. C'est ce qu'on dit à la demande de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans. Les experts désignés par cette chambre, ils ont dit que les extraits de thyroïde avaient provoqué chez elle une maladie grave. Mmh. Une maladie induite par ces médicaments. À partir de ce moment-là, et ils disent qu'elle était atteinte. Alors, plusieurs mois après les faits.
Voilà,
et c'est une expertise judiciaire. Permettez-moi une dernière phrase.
Allez-y, parce que je voudrais qu'on entende maître.
La Cour de cassation n'a pas prévisé le procès. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a dit, il a été question de la prise des médicaments devant la Cour d'assises d'Indre-et-Loire. Mmh. Donc ce n'est pas un élément nouveau.
Ce n'est pas un élément nouveau. Maître, je voudrais qu'on entende maître Jean-Michel Sieklouki, s'il vous plaît, parce que sinon, il ne va pas parler. Lors de ce procès, maître Sieklouki, quelle est l'attitude de l'accusé? Elle est cadenassée, elle est fermée, c'est ça?
Elle est fermée, elle ne répond pas. Mais ça, c'est aussi assez classique, ça n'a rien d'extravagant, si vous voulez. Quand on a commis des faits aussi épouvantables que ceux-là, qu'on les a parfaitement en mémoire... Ben, on essaye de dire, c'est aussi une amnésie volontaire, qu'on ne s'en souvient pas, parce que c'est très difficile de les redire publiquement devant une cour d'assises. Ça, c'est très classique, on a l'habitude de ça.
Encore un mot, maître Sieklouki.
Oui.
Le fils de la victime, son fils unique, il n'avait que sa mère.
Oui.
Il est content, si je puis dire, entre guillemets, à la fin de ce procès. Il est satisfait.
Ah ben, il ne pouvait pas imaginer une seconde une peine autre que la peine maximum.
Mmh.
Bon, bien évidemment, alors l'allusion de mon confrère à la peine de mort est totalement déplacée et mensongère. J'étais à cette reconstitution, j'ai suivi l'instruction. Régis de Jornat, qui a instruit, qui est un haut magistrat français à l'heure actuelle, serait content de l'entendre dire qu'elle l'a instruit à charge. C'est totalement inexact.
L'aide-soignante va passer plusieurs années en prison, continuant à garder le silence sur un acte qui la dépasserait. Vous êtes allé au bout de l'horreur, avait dit l'avocat général lors du procès d'assises. Heure du crime, avec aujourd'hui le dossier Sylvie Reviriego, la plus lourde des peines pour la dépeceuse de Tours, perpétuité pour le meurtre atroce de Françoise. Après plus de 20 ans de prison, elle obtient une libération conditionnelle. Fin août 2009, dans la plus grande discrétion, Sylvie Reviriego, 58 ans, quitte le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Ses demandes de libération conditionnelle avaient été jusque-là refusées, celle-ci est la bonne. Hors des murs de la prison, la femme qui avait tué et dépecé sa meilleure amie sera soumise à des contrôles stricts, contrainte de respecter un suivi psychiatrique. Les experts notent qu'elle ne montre plus de dangerosité. Selon son dernier avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, Sylvie Reviriego va alors bien. Elle va s'installer loin de Tours et a trouvé un emploi de secrétariat. L'avocat précise que la condamnée va tenter de refaire sa vie et pourquoi pas se remarier. Selon maître Sûr, sa cliente avait bel et bien agi sous l'emprise d'une force extérieure et n'avait plus son libre arbitre. Depuis sa libération, Sylvie Reviriego n'a plus jamais fait parler d'elle. Personne ne sait si elle a un jour compris les raisons qui l'avaient poussée à découper Françoise Gendron afin de l'éliminer à tout jamais. Et cette question, évidemment, sur les raisons de cet acte complètement fou, on se la pose encore toujours. Je suppose, maître Jean-Michel Sekouki, qui avait défendu à l'époque Cyril Gendron, le fils de la victime, cette question, elle n'a pas été résolue, finalement. On ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans la tête de la meurtrière.
Et ça arrive dans 1000 cas, vous savez. On n'a pas besoin forcément de savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un. On n'a même pas besoin d'un cadavre. Regardez l'affaire Seznec. On peut parfaitement conclure à une culpabilité sans tout ça. Après, c'est du luxe d'essayer de savoir ce qui a permis le passage à l'acte. Là, on a une analyse qui a été remarquablement faite d'ailleurs à la barre par le procureur général et qui a conclu effectivement des motivations psychologiques profondes, une perversité intérieure indiscutable, une capacité de haine qui est sans commune mesure avec ce qu'on voit habituellement. C'est vrai, c'est vrai.
Maître Catherine Lison-Croche, je vous pose exactement la même question. En quelques mots, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé et est-ce qu'elle le sait elle-même ce qui a pu se passer ?
Alors, elle ne le sait pas. Et les médecins qui l'ont examinée, donc, à la demande de la chambre de révision de la Cour de cassation, ont expliqué son geste, ses actes odieux, c'est vrai, bouleversant, par la prise d'extrait de thyroïdes alors qu'elle était déjà en état d'hyperthyroïdie. Donc les médecins, s'il y en a qui nous écoutent, ils peuvent comprendre ce qui s'est passé exactement dans sa tête, mais nous, non. Par contre, moi je dis que Cyril Gendron, qui à l'époque avait l'âge des enfants de Sylvie, enfin un peu plus vieux, il avait l'âge de mes enfants, je veux dire que Cyril le regarde, c'est vrai, celle qui a tué sa mère, et qu'elle soit déclarée coupable, soit, mais qui regarde aussi du côté des personnes qui ont préparé le passage à l'acte, des personnes qui ont été condamnées, suspendu leur fonction, un médecin en l'occurrence, et qui est parti ensuite à l'étranger, qui n'est pas resté en Indre-et-Loire, et qui est parti tout simplement laissant tout le monde se débrouiller avec ce cas de folie peu ordinaire, induite par des médicaments. On en est encore, et l'affaire Sarah Halimi récemment nous l'a rappelé, à se demander pourquoi. Comment peut-on encore juger des fous ?
Doit-on
les juger différemment ? Moi, je pense qu'on peut les juger différemment en les déclarant coupables.
C'est un vaste débat, ça, maître. Effectivement, peut-on juger les fous, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, être fou. Encore un mot, maître Catherine Lison-Croze. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, Sylvie Reviriego ? Vous avez des nouvelles ou pas du tout ?
Écoutez, elle s'est occupée, comme l'a dit Pierre-Olivier Sûr, elle s'est éloignée, hein. Elle s'est rapprochée de ses parents, elle s'en est occupée, de ses vieux parents, et malheureusement, ceux-ci viennent de décéder l'un après l'autre il y a peu de temps.
Donc aujourd'hui, elle est seule, continue à travailler ou pas du tout ? Elle est à la retraite, je ne sais pas.
Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais je sais qu'elle est dans une tristesse terrible. Perdre ses parents.
Bien sûr,
c'est quelque chose qu'elle connaît. Et je peux vous dire que on a parlé de Cyril. Et Cyril, bon, il doit regarder aussi, pas uniquement du côté de celle qui a effectivement tué sa maman, mais voir, essayer d'aborder le problème sous d'autres angles.
On l'a bien compris.
Ce que n'a pas fait l'instruction.
On a bien compris qu'il fallait regarder sans doute ailleurs. En tout cas, c'est vous qui vous le dites, même si votre confrère, maître Jean-Michel Sieklucki, n'est pas de cet avis. Mais enfin, les avis s'expliquent et les avis s'éclairent et éclairent notre heure du crime aujourd'hui. Merci beaucoup, maître Catherine Lison-Croze et maître Jean-Michel Sieklucki, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Dany Matou qui était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.